Sors de l'intérieur, motive ton corps, anime ton âme. Va voir le monde, bouge, va-t'en, va.
La radio dans le pédalo.
Ton seul contact avec l'extérieur en solitaire, c'est la radio, hein, bien entendu.
Avec Karina Kohan.
Je vous ai dit que j'étais désolée pour la tête de canard. Mais bon, je persiste à croire que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps.
Ça ne prenait pas beaucoup plus de temps.
Sur Radio BLV.
Ce qui est difficile, c'est la partie pédalo, c'est pas la partie canard. La partie canard, c'est un bec, un col vert. Et puis, on n'en parle plus.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la radio, dans le pédalo, le magazine environnement de Radio BLV. Il est 11h, vous êtes avec Karina et je suis à nouveau de très bonne humeur. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, déjà parce que je n'écoute plus les infos depuis quelques jours. Et si les journalistes elles-mêmes en sont là, eh bien, il faut peut-être se poser des questions. Bref, c'est pas le sujet. Je suis de bonne humeur parce que j'ai passé mon dimanche dans le Vercors. J'ai suivi une petite dame en taille, mais une grande dame en âme, qui m'a initiée à ces endroits secrets de cueillette. Et là, alors, mes amis, c'était le paradis sur terre. De tous les côtés, les immenses massifs du Vercors montant majestueusement vers le ciel. Autour de moi, de l'ombre, de la fraîcheur, de la verdure et de l'ail des ours partout. Un sol tellement clafi d'ail des ours que peu importe où on pose le regard, on voit ces petites fleurs blanches au loin. De l'ail des ours, mais pas que. De la prêle, des marguerites, du lotier, des acacias, des saules, du sureau et la rivière qui traverse ce petit paradis sauvage. Alors aujourd'hui, je suis emplie de reconnaissance. Merci aux générations plus âgés que nous, de transmettre, de nous faire ce trésor en cadeau, ce trésor de leur savoir. Mille merci. Et depuis, croyez-moi, je suis bien occupée. J'ai rempli 4 pots de pesto à l'ail des ours. Je touille tous les matins et tous les soirs ma future limonade de fleurs de sureau, autrement appelée champagne des fées. Et je m'attelle à la fabrication de sirop. En plus de des toutes petites pousses de plantes aromatiques et médicinales que j'arrose dès que je peux. Commence donc la phase d'expérimentation. Alors je m'adresse à vous, auditeurs, auditrices, expérimentez avec moi. Attention, hein, avec le plus grand respect de la nature qui soit, ne cueillez que très peu, ne prenez pas tout sur la même plante et faites attention à ne pas polluer pour préserver ce trésor qu'on a pourtant depuis toujours sous nos yeux. Et aujourd'hui, on va aussi parler d'expérimentation quelque part, mais pas du tout la même, avec des conséquences aussi qui ne sont pas du tout les mêmes, parce que j'ai la chance de recevoir une petite délégation de la CRIRAD pour parler de notre nucléaire local. Alors la CRIRAD, si vous ne connaissez pas, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est cette commission, notamment à l'époque de Tchernobyl, qui affirmait que, contrairement au discours de l'État, le nuage radioactif avait bel et bien passé la frontière. Elle est connue pour ça, mais depuis, elle a fait de nombreux suivis de la radioactivité, que ce soit sur l'état de nos centrales vieillissantes, auprès des zones concernées par les essais nucléaires, dans l'océan, dans le désert, ou alors même des analyses sur la radioactivité en Ukraine, dont la situation est particulièrement sensible. Je suis avec Roland Desbordes, bénévole et porte-parole de la CRIRAD. Bonjour Roland.
Bonjour.
Et avec Julien Sirène, chargé d'études à la CRIRAD aussi. Bonjour Julien.
Bonjour.
Est-ce que c'est correct jusque-là ?
Parfait.
Ça décrit la CRIRAD très bien. De loin, on a Pauline qui nous fait des photos. Bonjour Pauline. Elle est chargée de communication et ancienne consoeur radiophonique qui suivra notre discussion avec attention. Et puis sur le côté, nous avons Arthur. Arthur qui est en stage de première année. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Comment allez-vous tous ?
Merci,
très bien, ça va
bien. Très bien.
Alors, on y va. Alors, on va donc parler de nucléaire tout au long de cette heure et surtout de radioactivité, d'une radioactivité précisément qui nous concerne, celle de la Drôme et les centrales proches, notamment celle du Tricastin au sud jusqu'à l'Ukraine avec Julien et Roland. À 11h20, je vous proposerai les sorties environnement de la semaine. À 11h30, Jérémy de la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans nous partagera son coup de cœur bande dessinée environnement du mois. Et à 11h55, ce sera le fameux quiz animalier avec Arthur qui nous fera écouter un son d'animal avec quelques indications et on verra si Julien, Roland, vous arrivez à le reconnaître. C'est particulièrement difficile.
C'est pas gagné.
C'est en plus vraiment... Ah, il a choisi du... Il y a du niveau. Mais pour commencer, bon, bah, on va commencer avec...
Il n'y a pas.
De quoi ?
Regardez.
Ah oui, on triche déjà, Roland.
Je triche.
Ah bah bravo, belle mentalité. Alors pour commencer, bah, j'aimerais vous connaître un peu mieux, tous les deux. Et savoir d'où vous venez... Pourquoi ce sujet de la radioactivité, du nucléaire, vous touche personnellement ? Parce que j'imagine qu'il vous touche pour que vous vous engagiez à ce point sur ces questions-là. Et d'où ça vient ? Quand est-ce que ça a commencé à rentrer dans vos vies, tout ça ? Julien ?
Donc moi, je suis ingénieur géologue. Donc j'ai terminé mes études en 99. Et il se trouve qu'après mes études, je devais faire mon service militaire, puisque je suis d'une des dernières années où
le service militaire
était obligatoire. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire mon service, mais de faire objecteur de conscience. Et donc, cette objection, quand on était objecteur de conscience à l'époque, en fait, on devait aller dans une association pour faire un service de 20 mois au lieu de 10 mois, mais dans une association.
On avait le droit de faire
ça. Oui, on avait le droit. En fait, on vous proposait des listes d'associations qui prenaient des objecteurs. Et c'était le cas de la CRIRAD. Donc, il se trouve que j'avais entendu parler de la CRIRAD, et notamment du sujet du fameux tuyau de la Hague où la CRIRAD avait travaillé et avait montré avec Greenpeace qu'il y avait une pollution très importante dans la mer donc au niveau à la Hague. Et donc en fait j'ai contacté la CRIRAD et j'y suis rentré en tant qu'objecteur de conscience. Donc ça a duré un an et demi et ça m'a beaucoup plu. Et à la fin de mon objection, par hasard, il se trouve qu'un poste se libérait et je suis resté. Donc j'y suis depuis cette époque.
Et c'est quoi qui t'a plu à ce point ?
Déjà, le fait qu'on soit une petite équipe et qu'on fasse un travail extrêmement polyvalent, en fait, parce que le domaine de la radioactivité, c'est quelque chose de très large. Et alors, on est tout petit, mais on a un rôle, finalement, la CRIRAD, qui est assez atypique. Dans le paysage associatif, mais plus particulièrement dans le domaine de la radioactivité, puisqu'on est à la fois, en fait, un organisme militant, hein, puisqu'on est une association qui s'est créée en réaction au mensonge de Tchernobyl. Donc, on est militant. Donc on est à la fois militant et on est à la fois on essaye en tout cas de faire du travail de pointe donc dans le domaine de la mesure de radioactivité. Donc c'est quelque chose d'assez atypique puisqu'on a à la fois la partie militante et la partie mesure qui m'intéresse moi particulièrement.
Et Roland, toi de ton côté ?
Alors moi je suis beaucoup plus âgé que Julien, donc je suis tombé dedans beaucoup plus tôt. Et quand je faisais mes études scientifiques à Grenoble, c'était le début du nucléaire, c'était les années 65-70. On parlait de construire des centrales nucléaires. Et dans la région, on parlait d'une centrale particulière, Superphénix, qui était un prototype, un gros prototype, et sur lequel on se posait beaucoup de questions. Et les réponses que j'ai eues à l'époque par le milieu scientifique ne m'ont pas du tout convaincu que c'était sans risque, sans problème, qu'il y aurait des déchets, que ça coûterait cher, etc. Qu'il y avait des accidents possibles. Donc tout ça m'a amené à militer contre le nucléaire, contre ces choix qui étaient faits. Mais en même temps, je n'étais pas satisfait, et c'est un peu ce que dit Julien, parce que j'entendais dans le milieu militant de mes copains des discours qui n'étaient pas scientifiques rigoureux. Mmh. Et ça m'énervait beaucoup. Et puis il y a eu la manif de 1977 à Crémalville, donc vers Morestel, hein, dans le Nord-Isère, où un copain qui était prof de physique comme moi, c'était mon métier, hein, est décédé. Tué par une grenade offensive d'un CRS, une manifestation extrêmement violente qui a été réprimée, mais alors de manière acharnement, qui fait que je suis rentré à la maison. J'ai dit, non, il ne faut plus que je m'occupe de ça, moi, le nucléaire, c'est trop dangereux. J'étais papa d'une petite fille, j'ai dit, je ne veux pas qu'elle soit orpheline, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de mourir, c'est lâche. Wow. Je n'ai pas envie de mourir. Et du coup, je me suis désintéressé du nucléaire jusqu'en 86, pendant 9 ans. Et arrive Tchernobyl. Et là, tout d'un coup, j'étais dans la Drôme cette fois. Et là, je rencontre les gens qui ont démarré la CRIRAD, de la belle aventure. Et c'est celle-là que je continue à pratiquer de manière bénévole, moi, depuis donc 36 ans. Mmh. Et je suis très content. Je vois que la CRIRAD, c'est un miracle, elle est encore là. Parce qu'on ne donnait pas cher de sa peau à plusieurs moments. Elle aurait pu disparaître. Eh bien, grâce à nos soutiens, des citoyens, bah, on est encore là. Et ça, c'est bravo. Merci.
Et à l'époque, tu disais, les scientifiques, en fait, ils étaient persuadés, eux, du nucléaire, qu'il n'y avait pas de risque, vraiment, tu penses ?
Je ne sais pas s'ils étaient vraiment persuadés. Parce que quand on creusait un petit peu, quand on discutait au bistrot, en dehors de leur cadre institutionnel, avec un certain nombre de responsables, ils reconnaissaient qu'ils n'étaient pas si sûrs d'eux que ça, mais qu'il fallait de toute façon y aller. C'était un peu la marche forcée vers une énergie que l'on disait abondante, inépuisable, tellement abondante qu'elle n'aurait même pas de prix, on ne saurait même pas lui donner un prix, voilà, des discours comme ça. C'est vrai que quand on regarde ça avec le recul, c'était complètement
ça coûte quand même.
Surréaliste de dire des choses pareilles. Alors qu'aujourd'hui, on sait que le nucléaire, c'est hors de prix. Mmh. C'est pas la même chose.
Justement, on va parler notamment de la centrale du Tricastin, qui est proche de nous dans un moment. Mais d'abord, une de vos dernières actualités, c'était l'Ukraine, parce qu'on a entendu parler de taux de radioactivité qui avait été important. Et puis, il y avait ce stress aussi de la population d'une guerre nucléaire pendant quelques temps. Quelles sont les dernières nouvelles de ce côté-là ?
Oui, donc, alors... L'Ukraine, c'est quelque chose d'assez inédit, le fait qu'on ait une guerre dans un pays qui possède un certain nombre de centrales nucléaires de production d'électricité, c'est assez inédit. Et très rapidement, en fait, quand la guerre a commencé, il y a eu certaines inquiétudes, notamment au niveau de Tchernobyl. Donc Tchernobyl qui se situe à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, et en fait, les Russes sont passés par là. Et se sont emparés très rapidement de Tchernobyl. Et il se trouve qu'au moment où ils se sont emparés de Tchernobyl, les capteurs qui mesurent la radioactivité dans le secteur ont enregistré de très importants pics. Et puis après ces pics, en fait, on n'a plus de données accessibles au public. Donc en fait, pendant plusieurs semaines, on s'est retrouvé avec ces pics et derrière, aucune information d'ailleurs sur pourquoi on a eu des pics. Mmh. Donc ça reste encore un mystère aujourd'hui. Alors ça peut être des perturbations électromagnétiques, ça peut être dû... Il y a eu plusieurs hypothèses, notamment le fait que de la Terre ait été soulevée par les engins qui soient passés dans le secteur. Donc on a eu comme ça une situation, déjà d'élévation inexpliquée de radioactivité. D'autre part, ensuite, les Russes se sont emparés de Tchernobyl et on a eu donc tout un tas de... Comment dire de problèmes critiques. Alors le fait que le personnel du site n'ait pas été relevé pendant quasiment un mois, donc le même personnel a travaillé sur place sans être remplacé pendant un mois. Ensuite, on a eu des pertes d'alimentation électrique. Or, il se trouve que même 35 ans après Tchernobyl, on a toujours besoin d'électricité extérieure pour refroidir en fait les déchets radioactifs. Donc ça a été quelque chose de très précaire. Bon, aujourd'hui, les Russes sont partis de Tchernobyl. Donc on est moins, disons, dans quelque chose de particulièrement critique, mais on n'est pas non plus revenu à la normale, puisque d'abord, on a déjà un état des lieux à faire sur...
ce qui s'est passé.
Voilà, sur les conséquences des combats dans le secteur. À côté de Tchernobyl, enfin pas à côté de Tchernobyl, mais en Ukraine, on a par ailleurs plusieurs centrales, dont celle de Zaporijia, qui est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, et dont les Russes se sont emparés donc à peu près 15 jours après le début du conflit. Donc on a eu là aussi des combats au niveau de la centrale, un bâtiment qui a brûlé. Alors c'était un bâtiment de bureau, mais bon, c'était juste à côté des installations nucléaires. Donc ça a été très chaud début mars. Donc aujourd'hui, les Russes sont toujours... c'est eux qui gèrent, disons, qui se sont emparés de la centrale. Donc c'est toujours précaire, mais on n'a plus, disons, vraiment de combat à ce niveau-là. Donc on est moins dans une situation chaude.
Et vous continuez à surveiller.
Voilà, on surveille en permanence parce que on n'est pas à l'abri en fait de problèmes et notamment de dégâts collatéraux qui pourraient entraîner un problème beaucoup plus grave. Voilà.
Alors, vous nous tiendrez au courant. Et on va faire une première pause musicale avec System of a Down. On commence direct par vous réveiller à 11h si vous ne l'étiez pas assez avec Toxicity. C'est le choix de Pauline. J'ai demandé un choix à chacun et chacune. System of Down sur Radio BLV Toxicity. Et ben merci Pauline pour nous réveiller aussi efficacement, plus efficacement qu'un café même. Et puis maintenant, sortez les crayons et les carnets, c'est l'heure de l'agenda.
Sentez comme ça sent le feu de bois. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche quoi.
Ça, c'est une recette du pays. C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année.
C'est quoi les petits trucs blancs, non?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
suis végétarien.
Alors, on commence ce vendredi par une vélorution entre Valence et Saint-Péray pour dénoncer le tout voiture à l'heure où l'urgence climatique appelle à des réponses politiques fortes. Le départ de la vélorution se fera à 18h au pied de la fontaine monumentale de Valence. C'est aussi l'occasion de protester contre le projet de déviation routière de Saint-Péray. L'arrivée est donc prévue directement dans la plaine de Saint-Péray, à l'emplacement même de ce projet de déviation routière. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de Roulons en Ville à Vélo Valence qui a toutes les informations pour que vous puissiez participer. Et sinon, venez tout simplement 18h ce vendredi devant le kiosque Péné. Et puis c'est la matériau-fête ce week-end à la matériothèque de Montméran. Je pense donc je suis. C'est ça le thème de cette matériothèque, philosophie en Marcel. Donc vous êtes invité à venir déguisé avec votre plus belle robe en papier à poncer ou vos plus belles taches de sueur sur votre plus beau Marcel. Ça commence vendredi à 18h avec l'ouverture du site. Vous aurez ensuite différents spectacles, dont un concert de rock Lingus, un concert de ska punk Zénissé, spectacle de la circonférence des particules et un One Woman Show, chanson avec guitare. Et puis samedi, ça continue avec plein d'ateliers de partage de savoir-faire, comme justement ils savent très très bien faire au Valence Atelier Libre, avec fabrication de papier, réparation d'outils thermiques, pyro-rando pour faire un petit réchaud à bois, graffiti, fresque des nouveaux récits, et puis spectacle et concerts à partir de 16h le samedi. Il y a une conférence gesticulée, partagée autonomie, un spectacle de clowns, des contes, du graffiti. À nouveau, des concerts du rock joyeux, du jazz, Diadin, Les Enthousiastes, Compost Collapse, un sound system sans électricité. Et pour finir, DJ Jopanovic, tout y passe, afro, rock and trash, punk, electric and noise et tonique. Sur place, vous avez le bar à prix libre, un food truck pour manger, plein d'autres séances. Hein. Pour vous informer, vous allez directement sur le site du valvatelier.fr ou alors vous allez les voir, hein, ils sont toujours très accueillants. Et puis l'inscription est conseillée si vous voulez participer aux ateliers auprès de lucie@vatelier.fr. L'entrée est à prix libre et c'est donc à Montméran au quartier La Charlotte. Et puis à Montméran encore, le même jour, c'est quand même assez surprenant, il y a un festival zéro déchet au parc de la salle des fêtes qui a lieu, lui, de 14h à 18h. Au programme, vous aurez la clôture du défi zéro déchet avec remise des prix. Vous aurez aussi plein d'ateliers, zones de gratuité, visite de jardins partagés, compost collectif, troc de graines, recyclage de vieux t-shirts, éponge en tawashi, crochet, couture, tricot. Voilà, plein d'informations aussi intéressantes à découvrir du côté de la salle des fêtes. Et puis, la Ligue de protection des oiseaux organise un week-end de prospection dans la montagne de Mielandre ce samedi. Donc si vous êtes plutôt nature et observation des reptiles ou des insectes, ça vous intéressera. Le rendez-vous, c'est à 11h30 à la ferme du Col de Blanc avec un pique-nique partagé. Et puis restez pour la soirée et la nuit parce que vous pourrez voir les chauves-souris. Et il y aura aussi une prospection nocturne de rapaces et de mammifères nocturnes. Et dimanche, la prospection sera axée cette fois sur les oiseaux. Ça commence très tôt, faudra vous lever parce que ça commence à 6h30 le matin et en fin de matinée ou début d'après-midi sera la fin de ce camp naturaliste. Vous pouvez vous inscrire, vous devez même vous inscrire parce que les places sont limitées auprès de Clément Chauvet, clément.chauvet, chauvet@lpo.fr. Et puis sinon, vous contactez directement la Ligue de protection des oiseaux. Et ce week-end, c'est aussi les 24 heures naturalistes de la Frapna à Saint-Uze. Ça donne très envie. Vous pourrez donc, à partir de samedi 10h jusqu'à dimanche midi, découvrir l'inventaire le plus complet de la flore et de la faune de la commune. Si vous n'y connaissez rien, c'est pas grave. Toutes les compétences sont les bienvenues. Et le dimanche, il y aura une restitution des découvertes pour le grand public. Donc inscrivez-vous directement auprès de la Frapna Drôme Nature Environnement si vous avez envie d'apprendre à faire l'inventaire de la faune et de la flore d'une commune. Et puis, si vous êtes plutôt engagé politiquement, c'est samedi, c'est aussi la soirée de soutien aux décrocheuses de tableaux d'Emmanuel Macron. Cette histoire n'en finit pas. Et c'est cette fois-ci à la Cour de cassation de donner son verdict mercredi mercredi prochain. Et donc, pour les soutenir, et elles aussi pour vous remercier de les soutenir, ont organisé un concert. Alors, c'est Anne-Marie, Léa et Lucie, on les a souvent entendus sur Radio BLV. C'est donc ce samedi à la Ruche Trucmuche à 17h. Il y a un repas partagé, amenez tout ce que vous pouvez. Vous pouvez aussi préparer de la monnaie pour adhérer à la Ruche et donner un petit cachet aux artistes de Belzaï qui seront là pour la soirée. Dernière information sortie cette fois-ci, c'est pour les fans de randonnée. Vercors Nature organise une randonnée ce dimanche pour aller voir les volcans de Chirouze et une autre randonnée mercredi prochain pour aller observer le lac de Verre. Donc vous avez toutes les informations directement auprès de l'association Vercors Nature. Et revenons-en à nos centrales, et à une en particulier, Julien, parce que quand j'ai préparé cette émission, tu m'as informé d'une fuite de tritium qui avait eu lieu déjà il y a un petit moment, le 10 décembre dernier, ouais. Et dont tu aimerais beaucoup parler. Alors, oui. Que s'est-il passé et peut-être qu'est-ce que c'est que le tritium pour commencer ?
Oui, alors le tritium, c'est une forme radioactive de l'hydrogène. Donc ce tritium, on en trouve dans la nature mais parce qu'il est produit dans l'atmosphère en fait, par l'interaction entre les rayonnements cosmiques qui atteignent l'atmosphère et les molécules qui se trouvent dans l'air. Donc on en trouve des petites quantités, en fait, notamment si on analyse les eaux. Même si on n'avait pas de centrale nucléaire, on en trouverait un petit peu. Mmh. Mais par ailleurs, ce tritium, il est produit par les centrales nucléaires. C'est un des déchets en fait, qui sont produits par les centrales nucléaires. Et donc, le tritium, les centrales, en fait, ont des autorisations de rejet, c'est-à-dire qu'en routine, elles ont le droit de rejeter dans l'environnement une certaine quantité de tritium, mais ces rejets sont encadrés. Donc, ils doivent passer par certains circuits bien précis, les rejets doivent se faire dans certaines conditions, c'est encadré. Et ce qui s'est passé en décembre 2021, ou plus précisément en novembre, parce que c'est une fuite, en fait, EDF a détecté la fuite plusieurs semaines après qu'elle ait eu lieu, c'est que donc, du tritium a contaminé la nappe phréatique, donc, c'est-à-dire les eaux souterraines qui se trouvent sous la centrale nucléaire. Et donc ça, c'est pas du tout un circuit autorisé, en fait. Ce tritium n'est pas censé passer par la nappe phréatique qui se situe sous la centrale.
Comment on peut s'en apercevoir si tard ?
Alors, l'exploitant de la centrale, EDF, donc a des piézomètres. Les piézomètres, c'est des petits puits qui servent à contrôler la qualité des eaux souterraines. Donc en fait, ces piézomètres, ils en ont un certain nombre, disons, sur le site de la centrale. Et donc, ils doivent faire des contrôles réguliers de différents paramètres au niveau de ces eaux. Et donc, au niveau d'un de ces piézomètres, EDF a détecté, c'était en décembre, une augmentation très importante de la teneur en tritium dans ce piézomètre. Donc naturellement, dans les eaux souterraines, on a plutôt... Le tritium, ça se mesure en becquerel par litre. Naturellement, on va dire qu'on a de l'ordre de 1 becquerel par litre dans les eaux souterraines. Bon, là, en fait, sur ce piézomètre, on est passé très rapidement de quelques dizaines de becquerel par litre à presque 30 000 becquerel par litre.
Waouh !
Voilà. Et donc, à partir du moment où EDF a détecté cette hausse très importante de radioactivité, ils ont fait une enquête pour essayer de comprendre d'où ça venait. Et donc, c'est rétrospectivement, à partir de cette enquête, qu'ils se sont rendus compte qu'une fuite avait eu lieu, donc à peu près 15 jours avant. Et en fait, cette fuite était due à un problème de réservoir qui avait débordé lors d'un transfert en fait, d'effluents radioactifs, donc un transfert normalement encadré. Hein. Mmh. Ce transfert, pour faire ce transfert, EDF utilise des réservoirs qui sont prévus à cet effet. Et en fait, ils se sont, un des réservoirs a été trop rempli, il a débordé.
Mais c'est possible, ça, c'est pas hyper contrôlé
et
normalement.
On s'aperçoit que non, en fait. Alors, quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit que ce qui se passe, c'est que ces réservoirs, par exemple, ont des capteurs. Ils ont des capteurs de niveau qui sont censés sonner quand le réservoir se remplit trop. Donc, il se trouve que plusieurs des capteurs de ces réservoirs sont défaillants, ne marchent pas. Et c'était le cas donc, sur ce réservoir. Du coup, il a débordé sans que EDF s'en aperçoive. Donc ensuite, un capteur a quand même sonné au niveau d'un puisard, c'est-à-dire d'un puits qui est destiné justement à recevoir le trop-plein du réservoir. Mais ce qui se passe, c'est que le temps que les opérateurs... Parce qu'il faut savoir que tout ça est manuel. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a une fuite, après, il faut aller manipuler des vannes pour faire en sorte que le circuit, que les liquides aillent dans un autre réservoir. Donc, c'est manuel. Et donc, le temps, en fait, que les opérateurs interviennent, le puisard s'est rempli. Et il se trouve qu'il est traversé par une canalisation qui n'était pas bien étanche, en fait. Ça n'avait pas été détecté par EDF. Et donc, en fait, du liquide a fui par le défaut d'étanchéité de la canalisation et s'est retrouvé dans des caniveaux. Et en fait, EDF ne l'a pas détecté.
Donc, c'est un cumul de plein d'erreurs, quand même. C'est assez inquiétant qu'à point... Il y a vraiment plusieurs choses qui posent problème dans cette
situation. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'alors normalement, on pourrait se dire qu'au niveau de ce puisard, il y a des pompes. Donc, ces pompes sont censées se déclencher quand le puisard se remplit pour le vider. Mmh. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y avait un problème de conception. Donc, en fait, quand le puisard se remplissait et que les pompes se déclenchaient, elles renvoyaient l'eau dans le réservoir en train de déborder. Donc, voilà, en fait, c'est quand même assez aberrant. Mais bon, EDF a reconnu effectivement qu'ils avaient fait ce branchement aberrant. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle tout ça leur a demandé, un petit peu en catastrophe, disons, de modifier ce fonctionnement. Mais oui, c'est assez inquiétant.
Mais c'est fou. Enfin, moi, je suis vraiment choquée qu'à ce point, il y a autant de problèmes là, qui se soient cumulés. Comment t'expliques, toi, de ton point de vue, d'où ça vient
Alors, comment j'explique ça? Alors moi, bon, j'ai pas la prétention d'avoir une vision d'ensemble de tout ça, mais en tout cas, il se trouve qu'en 2013, j'avais visité la centrale du Tricastin suite à une précédente fuite de tritium également.
Donc c'est pas la première fois.
Non, c'est pas la première fois. C'est des épisodes qui arrivent. D'ailleurs, parfois, EDF est même condamné pour pollution. C'est arrivé très récemment au Bugey, où des associations locales avaient porté plainte parce qu'il y avait eu une fuite de tritium, là aussi, qui avait contaminé la nappe. Et on n'était qu'à 700 becquerels par litre à l'époque. Hein. On n'était pas à 30 000.
30 000, ouais.
Voilà. Donc, bref, EDF avait été condamné. Et donc, quand on visite une centrale, la première chose qu'on se dit, c'est mais comment est-ce qu'on peut être sûr de tout maîtriser? C'est tellement énorme, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de circuits, de canalisations, etc. On dirait pas que c'est inévitable qu'il y ait des problèmes, mais en tout cas, c'est très probable, tellement c'est complexe. Et donc justement, à la fuite de 2000, donc il y a ça, et la deuxième chose, c'est le vieillissement. La fuite de 2013, elle était due au fait qu'entre deux bâtiments, il y avait un joint, et un de ces joints, en fait, était devenu poreux.
Ouais.
Et en fait, pourquoi? Parce que la centrale, maintenant, a 40 ans, et donc un certain nombre de matériels qui ont été mis en place à l'origine, n'étaient pas forcément conçus pour durer aussi longtemps.
Oui, ce qui est logique, au bout d'un moment, ça s'abîme forcément.
Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on a certains matériaux, certains éléments qu'on peut remplacer, mais on en a d'autres qu'on ne peut pas remplacer, en fait, qui sont d'origine. Et bon, c'est en particulier le cas de la cuve. Alors là, ce n'est plus le même sujet, mais en tout cas, la cuve de réacteur, on ne peut pas la remplacer.
Oui, on va en parler justement un peu plus tard avec Roland de cette question de la prolongation de la durée de vie de la centrale de Tricastin. Mais pour revenir au tritium, c'est 30 000 becquerels par litre, c'est hyper impressionnant. En termes de conséquences pour à la fois la santé des gens qui habitent autour ou l'environnement, est-ce qu'il y en a ou est-ce que ça va être traité efficacement
Bon, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, cette contamination, alors, elle touche la nappe qui est sous la centrale. Donc, ce n'est pas une eau que boivent directement les gens. Hein. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le discours d'EDF qui dit « Mais de toute façon, la nappe sous la centrale, nous, on la maîtrise puisqu'on a construit des murs souterrains qui entoure tout le site, et du coup, ça ne sort pas, en fait, du site. Mais ce n'est pas vraiment vrai, en fait, puisque, en fait, le mur qui entoure la centrale, c'est un mur de béton, et le béton a une certaine porosité. Donc, en fait, on n'est pas complètement étanche sous la centrale et à l'extérieur de la centrale. Et du coup, EDF est en permanence obligé de pomper l'eau sous la centrale pour maintenir un niveau plus bas que l'eau à l'extérieur.
Pour pas que ça se propage.
Voilà, c'est ça. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, la nappe sous la centrale, elle fait 400 000 mètres cubes. Et chaque année, pour rabattre la nappe, EDF pompe 200 000 mètres cubes. Donc en fait, il y a quand même, voilà, il y a quand même des échanges qui sont pas anodins, disons, entre les deux. Et du coup, ce tritium qui se trouve, qui a pollué la nappe sous la centrale, en fait, il va être pompé par par le pompage qui sert à baisser le niveau de la nappe. Et du coup, il va être ensuite rejeté dans le canal au même titre que les rejets normaux.
Mais tu me fais peur quand tu dis ça.
Voilà. Le problème est en ordre de grandeur. Voilà. En fait, cette contamination sous la centrale, c'est vraiment très, très faible, disons, par rapport au rejet autorisé.
Ah.
Voilà. Okay. C'est très faible. Mais il n'en reste pas moins que c'est un problème, en fait. La nappe sous la centrale ne devrait pas être contaminée. Oui. Et d'ailleurs, bon, alors, le discours d'EDF, c'est de dire oui, mais bon, c'est dans notre site, donc c'est pas grave. Mais sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nappe sous la centrale n'appartient pas à EDF, en fait. Même si elle est entourée de murs, en fait, c'est une nappe qui est naturelle, qui fait partie de l'environnement. Et d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire l'a bien dit à EDF, leur a dit, écoutez, non, la nappe ne vous appartient pas.
Parce que sur le temps long, est-ce que cette nappe qui est quand même polluée risque de polluer les alentours ?
Oui, bah alors, disons, la nappe, oui, et puis après les rejets de manière globale, et y compris les rejets autorisés, puisqu'on s'aperçoit.
Dans le canal.
Voilà. Donc en fait, chaque année, en fait, c'est plusieurs dizaines de milliers de milliards de becquerels qui sont rejetés dans le canal. En fait, le tritium, c'est le principal élément qui est rejeté par les centrales. Mmh. Et ce que ça entraîne, c'est globalement, disons, une contamination des eaux potables.
Sur quelle zone, sur quelle distance ? Est-ce que tu sais qui ça concerne ?
Alors, plusieurs kilomètres, oui. Donc, la CRIRAD a fait une étude qui montre que... Bah, d'ailleurs, globalement, disons, c'est pas que le cas au Tricastin, mais sur beaucoup de centrales nucléaires, quand on fait des mesures en aval des sites, mais sur plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus, on détecte du tritium dans les eaux potables. Alors, à des niveaux faibles, hein, mais on n'est pas au niveau naturel de 1 becquerel par litre. On peut être parfois à 5, à 10... voire, par exemple, on l'avait montré en aval de la centrale de Golfech dans le sud-ouest, à 40-50 becquerels par litre. Donc, on n'est plus dans on n'est plus dans le bruit de fond, en fait. On n'est plus dans le niveau naturel. Donc, voilà, ça contribue. En fait, ce type de fuite, et puis les rejets autorisés également, en fait, contribuent globalement à l'élévation du niveau de radioactivité auquel on est tous exposés. Donc, on reste dans le domaine des faibles doses, mais c'est quelque chose qui... Enfin, comment dire qui nous, petit à petit, qui nous expose tous. Et là où c'est préoccupant, c'est en cas d'accident. Puisqu'on s'aperçoit que les réserves en eau potable, ressources en eau potable sont vulnérables. Les gens, en fait, consomment cette eau. Et donc, si on avait un accident et un rejet massif, on n'aurait finalement pas beaucoup d'autres alternatives que de consommer de l'eau contaminée, si les gens restaient dans le coin.
Oui, ça pose plein de questions, effectivement. Et sur ce, je reviens sur ce canal, parce que le mot canal, moi, me perturbe. Est-ce que c'est un canal à l'air libre, typique
Oui, oui.
Il n'y a pas de sécurité particulière
Non.
Et il passe par où ? Il se déverse dans le Rhône, j'imagine, au bout d'un moment ?
Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est un canal qui est plus ou moins parallèle au Rhône, disons, et qui en aval se déverse dans le Rhône, effectivement. Donc, du coup, on va avoir cette contamination, disons, dans l'eau du fleuve, et dans les nappes phréatiques qui sont autour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais il faut bien comprendre qu'une centrale nucléaire en fonctionnement normal, ça entraîne, à des rejets autorisés, entraîne une contamination de l'environnement qu'on voit dans l'eau, qu'on va voir aussi dans les plantes, du coup. Si on analyse des plantes aquatiques en aval d'un site, on aura plus de radioactivité qu'en amont. Voilà.
Il est très possible que des personnes qui nous écoutent habitent justement en aval d'une centrale nucléaire, que ce soit celle-ci ou une autre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là ? Parce que j'imagine que ça doit les inquiéter.
Oui, alors déjà, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils peuvent déjà se renseigner, parce que les mesures réglementaires, notamment de radioactivité dans les eaux potables, sont accessibles au public. Alors, ce n'est pas très pratique. Le site pour aller voir ces données n'est pas très pratique. Donc, la CRIRAD est en train de travailler justement à rendre ça plus accessible. Mmh. C'est un des projets qu'on a. Et puis ensuite, bon, il faut bien quand même comprendre qu'on est dans des niveaux qui sont très faibles, hein. Donc, il n'y a pas de panique à avoir, disons, à l'heure actuelle. Par contre, c'est quelque chose à garder en tête parce que, c'est une des sources d'exposition. Après, il y en a d'autres. Et donc, l'idée, c'est qu'on fasse tous en sorte, dans la mesure du possible, d'avoir le moins de sources d'exposition à la radioactivité artificielle.
Merci de venir nous informer de tout ça. On va faire une nouvelle pause musicale avec La Java des bombes atomiques. C'est le choix de notre ami Roland, qu'on va entendre dans un instant.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
C'était La Java des bombes atomiques de Boris Vian sur Radio BLV 93.6. Et tout de suite, on écoute Jérémy et son conseil lecture.
Alors, Jean-Pierre, un petit peu pour nous résumer, l'histoire, c'est quoi un petit peu l'histoire de Garrett?
Alors, l'histoire est toute simple, c'est l'histoire de la guerre et de la paix.
Moi, j'ai eu de la chance, c'est mon ami Gérard qui m'a offert mon premier bouquin. Ça m'a bouleversé ma vie.
Ils commencent par apprendre à lire. Comme ils savent pas s'arrêter, ils craquent. Ils apprennent à écrire et voilà.
La pente fatale.
Bah écoute, je ne me lasserai jamais de ce jingle. Je pense qu'il faut que je le mette à chaque fois que je fais un enregistrement. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une série BD en 6 tomes et dont le dernier tome est paru en début d'année. Cette série s'appelle Les Seigneurs de la Terre, elle est de Fabien Rodin et de Lucas Malissant et c'est publié aux éditions Glénat. Le dernier tome s'intitule Résilience. Quel beau titre quand même pour terminer une série comme celle-ci, vous allez découvrir de quoi elle parle. Il est drôle d'ailleurs qu'on ne parle jamais de cette BD quand on parle d'agriculture bio, de politique agricole ou de BD écologique. C'est à mon avis parce que comme une série comme Château Bordeaux, que certains connaissent peut-être, ou pour les plus anciens, une série comme Les Maîtres de l'Orge, qui avait été scénarisée par Van Ham, voilà, le célèbre scénariste de bande dessinée grand public, eh bien cette série est grand public, voilà. Un dessin très classique, très presque photographique, et un scénario qui joue sur des ressorts habituels, quoique très efficace, hein, je tiens à le préciser. Je ne résumerai pas, évidemment, les 6 tomes en quelques phrases. Pensez seulement que le fils d'un exploitant agricole, plus soucieux de son profit que de la santé des consommateurs, décide de quitter son cabinet d'avocat, donc on imagine déjà un petit peu le niveau dans lequel se trouve ce bonhomme-là, pour se lancer dans l'agriculture bio. Voilà. Voilà, vous avez là déjà, à mon avis, tous les ingrédients d'une bonne guerre des familles. Évidemment, le jeune homme va aller de découverte en découverte et devoir lutter contre des lobbies bien installés. Sachant qu'évidemment, comme il vient d'un autre univers, il y a aussi beaucoup de boulot pour lui. Il va faire pas mal de découvertes, notamment sur les effets des pesticides, dont il n'imaginait absolument pas la portée au début de cette aventure. Alors j'aime cette BD, car cette série d'aventures évoque de nombreux sujets. L'alimentation, les pesticides, le bio, la politique écologique ou même la politique agricole, les lobbies, avec tout ça avec beaucoup d'intelligence et sans manichéisme. Finalement, suivre les dilemmes de ce héros, bien naïf au départ, permet de découvrir soi-même les rouages d'un monde agricole soumis lui aussi à la rentabilité. Vous l'aimerez aussi parce qu'elle évoque souvent la Drôme et l'organisation agricole locale. D'ailleurs, le dernier tome se termine à Saillant, comme par hasard. Vous l'aimerez encore parce que Pierre Rabhi signait la préface du premier tome ou tout simplement parce que Pablo Servigne signe celle du dernier. Tous les deux, d'ailleurs, avec des textes très intéressants. Même si voilà, on connaît ces auteurs-là, on peut imaginer à quel point des gens qui ne sont pas forcément dans cet univers-là vont apprendre pas mal de choses avec ces belles préfaces. Je vais, si j'ai 2 secondes, lire le début de la préface de Pablo Servigne, le tout début. Ce n'est un secret pour personne, le système alimentaire industriel est toxique. Il est responsable en grande partie des émissions de gaz à effet de serre, de pollution immense, de l'épuisement de l'eau potable, de l'effondrement de la biodiversité, de la fin de l'agriculture familiale, des maladies et du suicide des agriculteurs et des paysans, de la mauvaise santé des consommateurs et d'un gaspillage immense de nourriture. Voilà pourquoi la résistance est si importante, comme le montre bien cette saga. Voilà, c'était juste le début, très sérieux, très plombant, mais vous verrez que la préface est pas mal et la BD est géniale. En conclusion, de la bonne BD, de facture classique et efficace, qui sort des BD documentaires sur ces sujets. Donc, en plus, Les Seigneurs de la Terre est une série complète publiée chez Glénat. Donc, jetez-vous dessus.
Merci Jérémy. Et on revient à notre discussion, prolongation ou pas, de la centrale de Tricastin. Roland, du coup, c'est plus ton sujet à toi, cette question-là. On arrive, c'est les 40 ans, c'est ça? Est-ce qu'elle a là cette centrale maintenant?
Le réacteur numéro 1 de Tricastin a 42 ans. Les 4 réacteurs ont un petit peu moins, enfin les autres ont un petit peu moins, mais celle-là a 42 ans. C'est la plus vieille avec Bugey, à peu près le même âge, hein, qui se trouve, lui, au nord du département. Mais c'est pour le réacteur numéro 1 de Tricastin que EDF a déposé une demande de dire « moi, j'ai envie de continuer de 10 ans, 20 ans, on ne sait pas très bien. En tout cas, je continue à la faire fonctionner dans un premier temps, vous voyez, parce qu'elle a passé 40 ans, elle a 42, et qu'elle ne l'a pas arrêté, vous l'avez remarqué. Donc, il y a un dossier qui a été déposé par EDF pour valider, je dirais, quelque chose qui est en attente. C'est souvent comme ça dans le nucléaire.
Ils s'y prennent un peu tard, quand même.
Oui, parce qu'en théorie, il y a des deadlines, des limites, mais on franchit facilement les limites. On a vu avec Julien, il y a beaucoup d'élasticité, je dirais, dans ces systèmes. Bon, du coup, le dossier a été déposé à l'automne dernier. Il y a eu un groupe de travail de la commission locale d'information de Tricastin qui a été mis en place pour donner un avis sur ce dossier déposé par EDF. La CRAD a démissionné ce groupe de travail parce que la présidente du groupe de la CLIGET, qui est la présidente du département de la Drôme, a refusé qu'il y ait l'avis d'experts indépendants. C'est un dossier extrêmement technique, puisque dans ce dossier, EDF fait le tour de toute son installation et évalue, je dirais, l'obsolescence, c'est-à-dire de tous les éléments, ceux qui sont usés, qu'il va falloir changer, ce qu'on ne peut pas changer, est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave, etc. Bon, c'est un dossier qui fait plus de 1000 pages, hein, et très technique. Hein. Mmh. Donc, moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait des experts extérieurs à EDF, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire, qui est l'expert de l'ASN et de EDF. Bon. Donc, on était entre experts qui avaient constitué le dossier. Moi, j'ai demandé qu'il y ait des experts autres. Pour parler des, à partir des séismes dans la région, il faut en parler, hein, et puis des états de certains éléments non changeables de la centrale, qui est la cuve. Et la présidente a refusé qu'on s'entoure des conseils, des informations d'experts extérieurs. Du coup, nous, la CRAD, on a démissionné de ce groupe de travail, qui a malgré tout continué, qui a rendu un avis mi-chèvre, mi-chou. En gros, c'était au courant fin janvier, ça, un dernier, hein, c'est tout ça, c'est récent. Qui dit, ben, en gros, à quelques nuances près, on ne voit pas de problème à la prolongation du réacteur numéro 1 de Tricastin. Mais il y avait une enquête publique juste derrière qui s'est déroulée pendant un mois, donc le mois de février. Et l'enquête publique, il y a eu un certain nombre de contributions de citoyens, hein, qui sont allés voir le dossier et qui ont fait des remarques. En gros, d'après le commissaire enquêteur qui a rendu son rapport, comment s'était déroulée l'enquête publique, etc., il y a à peu près 1800 personnes qui sont venues en mairie, qui ont fait une démarche pour déposer une remarque. Alors souvent, la remarque, c'est ce que fait remarquer le commissaire enquêteur, c'est que c'est « je suis contre le nucléaire » ou « je suis pour le nucléaire ». Là, les pro-nucléaires avaient beaucoup mobilisé. Il y avait pas mal de contributions. Nous, on veut que la centrale continue, qui n'était pas la question. La question, c'était, en réalité, c'est EDF a déposé un dossier pour continuer à fonctionner, sans préciser prolongation, continuer à fonctionner au-delà de 35 ans. Ça fait bizarre. Alors qu'on est à 42, et EDF dépose un dossier. Et le commissaire enquêteur, d'ailleurs, soulève un certain nombre d'incohérences entre un dossier qui a été élaboré à l'automne dernier, où on parle clairement prolongation, 10 ans, 20 ans, et qui va être soumis à enquête publique, consultation, etc., et qui amènera à une décision de l'Autorité de Sûreté Nucléaire dans l'année 2022. On est en plein dedans. Et là, on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, tout ce qui s'est passé dans le dossier mis à l'enquête publique, rédigé par la préfecture, elle, pas l'Autorité de Sûreté Nucléaire ou EDF, et n'est pas en cohérence avec les vraies questions qui ont été mises sur la table quelques mois avant. C'est là où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on va avoir peut-être des informations, parce qu'il y a une prochaine réunion de la commission locale d'information. En tout cas, nous, on ne va pas lâcher le morceau, parce qu'on estime que, encore une fois, on a été un peu roulé dans la farine. On nous fait travailler sur des choses, et puis, en fait, on fait autre chose.
Oui, voilà, on ne vous écoute pas. Et tu nous tiendras au courant de l'évolution du dossier ?
Évidemment, oui. Évidemment, on vous tiendra au courant, parce que c'est un dossier extrêmement important. C'est le premier. Il y a une trentaine de réacteurs derrière qui vont leur déposer leur dossier dans la foulée. Si le premier n'est pas exemplaire, c'est un très mauvais signe qui est donné pour la
pour
suite.
Les autres.
Or, malheureusement, il n'est pas exemplaire.
Et quand on entend parler de Tricastin, en plus de la continuité de ces réacteurs qui existent déjà, Emmanuel Macron a des projets peut-être de faire des nouvelles centrales. Il parle d'EPR.
Alors, M. Macron, qui n'y connaît rien dans le nucléaire, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il a fait une annonce qui est politique, il a le droit, sauf que c'est lui qui dit « on va prolonger les réacteurs ». Bon, comme si c'était de son ressort, ce n'est pas de son ressort du tout. Hein. Ce n'est pas lui qui peut dire, en tout cas, il y a une autorité indépendante, c'est vrai, qui a la prérogative de dire ça. Et puis, il a annoncé en même temps la création de nouveaux réacteurs, des EPR2, voire des petits réacteurs. Et la Drôme a été citée dans ses possibilités d'installer des EPR à Tricastin. En tout cas, les élus locaux se sont mobilisés pour dire « nous, on est candidats ». Bon, je ne sais pas qui va être, si on va les faire d'abord, et puis où est-ce qu'on va les faire. Sachant que le Rhône est déjà très très chargé en réacteurs nucléaires, qu'il n'arrive plus à refroidir correctement les centrales existantes. Alors, si on parle de les prolonger et de construire de nouveaux réacteurs, je suis désolé, ça ne va pas passer. Avec le réchauffement climatique, on en parle tous, mais là, nous, on le voit sur le Rhône. Hein.
Ouais.
C'est évident. Ah oui, les dernières années ont été extrêmement tendues pour le fonctionnement des réacteurs existants. Mmh. Je ne parle pas de si on en met d'autres. Hein.
Donc pour les années à venir, les réacteurs existants, s'ils ne sont pas refroidis correctement par le Rhône, qu'est-ce qui nous reste ?
Ah ben, il y a des règles pour assurer comme le fonctionnement des centrales nucléaires, qui sont parfois bafouées, comme l'a exprimé Julien, mais qui sont des règles sur les rejets thermiques, les rejets chimiques, les rejets radioactifs, etc. L'impact sur l'environnement, si on ne veut pas qu'il soit catastrophique, il n'est déjà pas bon. Mais si on ne veut pas qu'il soit catastrophique, il faut qu'il y ait un minimum d'eau dans le Rhône et qu'il ne soit pas trop chaude. Sinon, bah, il y aura les petits poissons, les plantes qui vont subir, mais le refroidissement lui-même, le fonctionnement normal, va être remis en cause de ces installations.
Alors, on est à la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Et vous êtes les bienvenus pour continuer cette discussion qui est passionnante et qui n'en finira probablement pas dans cette émission pour une autre fois. Merci pour, merci. Pour vous retrouver.
Merci à vous.
Avec plaisir. Donc vous avez un site internet, hein, crirad.org, C-R-I-I-R-A-D, une page Facebook. Et puis, on peut vous contacter par là pour les
bien
personnes
sûr,
qui auraient des questions.
Il y a une adresse contact sur le site.
Allez.
Qui permet d'entrer pour ouvrir toutes les portes.
Parfait. On va écouter maintenant Arthur qui vous a préparé la devinette du jour et puis le son de l'animal mystère.
Je tiens à préciser qu'il faut vraiment bien se concentrer sur le son parce que c'est un animal assez rare pour l'écouter au niveau du son. Il est tellement rare que je me demande même si c'est vraiment son son.
On t'écoute.
Donc, mon nom est tiré de la mythologie grecque. Je vis dans les épaisses forêts d'Amazonie, perché dans les arbres. On me reconnaît grâce à mon plumage blanc et ma huppe. De ma taille, je suis l'un des plus grands prédateurs de la forêt. Je peux manger des petits oiseaux comme des singes ou des paresseux. Je mesure 1 mètre de haut et 2 mètres d'envergure du bout de l'aile gauche et de l'aile droite. Je pèse dans les 9 kilos malgré ma grande taille. Je peux vivre jusqu'à 40 ans. Je suis un rapace. Pour chasser, j'attends perché sur un arbre jusqu'à ce que je trouve la cible idéale. Puis je plonge jusqu'à 80 km/h, la même vitesse que sur vos routes, mais je ne me fais pas flasher. Je suis tellement majestueux que je suis représenté sur le blason du Panama, tenant leur devise. Je suis monogame, qui veut dire que je n'ai qu'un seul partenaire tout le long de ma vie, contrairement à vous. Mais aussi une mère très dévouée et protectrice. Je chasse toute la journée pour nourrir mes enfants et leur apprends à voler. Mais si adultes, ils ne sont pas autonomes, je les tue, à ne pas reproduire, chers humains. Je suis considéré comme vulnérable par votre UICN, qui veut dire Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Je suis menacé par la déforestation qui réduit fortement mon territoire. Merci les humains.
Alors tu veux le dire le nom ?
Donc c'est la harpie féroce.
C'est rare hein, pour vous.
C'est le deuxième rapace le plus grand du monde derrière la harpie, le condor des Andes, qui fait aussi 1,30 m de haut et de long et 3 mètres d'envergure. De base, elle habitait dans les forêts tropicales du Mexique, mais à cause de la forte déforestation, elle a dû migrer vers l'Amérique du Sud, mais malheureusement, le schéma se répète pour eux.
Merci beaucoup Arthur de nous avoir fait découvrir la harpie féroce. Merci Julien et Roland une fois de plus d'être venus
merci.
Nous voir.
Merci.
Et puis c'est la fin de cette émission, donc comme d'habitude si vous voulez nous contacter pour venir vous aussi parler d'environnement, vous êtes les bienvenus. Écrivez-moi à carina@radiobv.com ou alors appelez la radio. Et on se quitte avec le dernier choix musical de nos invités, Kraftwerk Radioactivité. C'est le choix de Julien. Bonne journée et à tout à l'heure pour la locale.
Zukunft geht.